Ce matin, je vous propose quelques lectures. On commencera par lire le premier chapitre du livre de Ruth. Donc, je vous invite à chercher dans vos Bibles le livre de Ruth et on va lire le premier chapitre. Au temps où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda parti avec sa femme et ses deux fils pour aller séjourner dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Le nom de sa femme, Noémie. Et le nom de ses deux fils, Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Et ils arrivèrent donc dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, le mari de Noémie, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa, le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent environ 10 ans dans le pays. Puis Mahlon et Kilion moururent aussi, tous les deux, et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Alors, elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu où elle habitait avec ses deux belles-filles, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Mais Noémie dit à ses deux belles-filles, « Non mais allez, retournez chacune à la maison de votre mère, que l'Éternel use de bienveillance envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa, mais elles se mirent à sangloter et elles dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Noémie leur dit, « Mais retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme, et quand même, je dirais, j'ai de l'espoir pour ce soir qu'un homme me donne un fils. Attendriez-vous que celui-ci soit grand? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, voici ta belle-sœur, elle est retournée dans son peuple et à ses dieux, retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel m'inflige la pire des punitions, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus. Et elles marchèrent toutes deux jusqu'à Bethléem. Je m'arrête là. Une deuxième lecture, et ce sera notre texte du jour, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Les derniers versets, 57, 62. Évangile de Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Mais il répondit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regardent en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Et une toute dernière lecture, dans la première épître de Paul à Timothée. Pour adoucir un peu l'abrupteté de l'évangile, 1 Timothée 5, versets 3 et 4. Honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Et on peut lire aussi le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Prions. Merci pour ta parole, Seigneur, profonde, puissante et percutante. Maintenant, que ton esprit soit puissamment à l'œuvre pour nous pétrir comme de l'argile sur le tour du potier et nous façonner à ton image. Amen. Dans la fin du chapitre 9 de l'évangile de Luc, l'auteur nous raconte trois rencontres. Alors, il a choisi de les ordonner comme ça pour nous envoyer un message, parce qu'il est inspiré de Dieu, cet auteur. Et ces trois rencontres ont réellement eu lieu, elles sont authentiques. Une personne qui propose à Jésus de le suivre, à condition que. Une autre personne à qui Jésus propose de devenir disciple, qui accepte à condition que. Une troisième personne qui propose de suivre Jésus aussi, à condition que. Trois vocations. Peut-être on peut y voir même des appels au ministère, à être les serviteurs de l'Église. Et pourtant, à travers ces trois rencontres, on a l'impression que Jésus a une stratégie de communication pour le recrutement qui est désastreuse. Il ne fait pas envie. Intrigant. Et en même temps, on retrouve bien là l'esprit de notre maître qu'on commence à connaître, qui ne nous berce pas d'illusions, qui ne nous brosse pas une espèce de tableau idyllique de la vie du disciple pour nous appâter et accumuler le plus de dévots possible. Parce que c'est bien la dernière chose que Jésus cherche, des dévots. Et dans ces trois rencontres, Jésus souligne trois ruptures, trois bouleversements dans notre vie, dans l'ordre de notre vie, si l'on veut embrasser, participer à la vie du royaume. La première personne lui dit avec zèle, « Je te suivrai partout où tu iras. » Et je note que je me suis trompé, il n'y a pas de condition. Mais c'est Jésus qui lui a fait une réponse un peu sèche, en pointant du doigt, si tu me suis, c'est pour vivre comme moi, à la rue. Je n'ai pas d'endroit où aller, moi. Je vais partout, mais je n'habite nulle part. Je ne possède pas de maison. Je ne possède pas de toit. Oh, Jésus sera accueilli par bien des personnes. Il dormira dans des lits et il trouvera de l'abri pour sa tête, pour le soleil ou pour la pluie. Mais aucun de ces abris ne lui appartiendra pleinement. Et partout où il ira et où il sera hébergé, c'est grâce à la bienveillance que Dieu suscitera dans le cœur de toutes les personnes qui croiseront la route de Jésus. Une vie de dépendance, une vie selon la providence. La deuxième rupture, avec notre culture. Les Juifs vivaient des enterrements en deux temps. Un premier temps était la mise en terre proprement dite du corps, et l'année suivante, on rassemblait les os pour les mettre ensemble avec les os de la famille, une sorte de réduction du corps. Est-ce qu'à travers cette demande, la personne que Jésus a invitée à devenir disciple lui demandait le temps? Peut-être que son père était à la fin de sa vie, peut-être qu'il voulait bien devenir disciple, mais repousser un peu le moment du début de sa vie nouvelle pour accomplir les rites que la culture, que sa tradition familiale exigeait de lui. Et là aussi, Jésus appelle à une autre rupture où nos codes sociaux et culturels sont appelés à devenir secondaires par rapport à notre marche à la suite du royaume. Ne pas laisser nos traditions, nos héritages humains prendre la première place par rapport à nos héritages, à l'héritage spirituel auquel nous sommes appelés. Et puis une troisième rupture. Permets-moi d'aller dire adieu, d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Et là, cette réponse assez cinglante, je trouve, de Jésus. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire que celui qui commence à servir le Seigneur, mais qui garderait quelques, peut-être, doutes, nostalgie, ou que cette vie vers laquelle il va, peut-être ne me comblera pas en toute chose comme la vie que je quitte, n'est d'aucune utilité pour le royaume. Ça, c'est bien tranchant à la Jésus. Comment recevoir ces paroles dures du maître? Et c'est pour ça que j'ai eu plaisir à lire le livre de Ruth, parce que elle nous montre, elle est un témoignage de quelqu'un qui s'attache coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Ruth a suivi Noémie qui retournait à Jérusalem sans aucune assurance, sans aucune perspective d'avenir. Deux femmes à cette époque, si vous avez un petit peu lu le livre des juges dans la Bible, vous saurez que c'est une période extrêmement violente, où la morale du peuple de Dieu est au plus bas. L'avenir de ces deux femmes est plus qu'incertain, et pourtant, à travers cet attachement à Noémie, Ruth, vous le savez peut-être, deviendra la grand-mère du roi David, ou l'arrière-grand-mère plutôt. Nous attacher à Dieu, quoi qu'il en coûte. Accepter ces ruptures et cette réorganisation de nos valeurs pour goûter et participer au royaume de Dieu. Je trouve intéressant de prendre quelques minutes pour considérer que Jésus lui-même a vécu ces trois ruptures. Le confort, il est la parole de Dieu, le Verbe incarné qui a pris chair, mais avant de venir sur la terre, de naître comme un bébé, très vulnérable, dans une étable, il était dans la gloire, dans la présence même du Père, dans les cieux. Mais il a tout quitté, tout abandonné pour rentrer dans une pauvreté, dans un dénuement que la plupart d'entre nous n'avons jamais connu, afin de nous rejoindre, nous. Afin de nous rejoindre, nous. Il a rompu avec sa culture. Nous le prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a quitté le royaume des cieux, où tout est juste, où tout est droit, où tout est vrai, où tout est authentique, où il n'y a pas de manipulation, de triche, de corruption, où la pureté rayonne en tout lieu, pour rentrer dans un monde habité par le péché et par le mal, où nous respirons un air empreint de manipulation, de corruption, de jalousie. Et c'est dans ce monde-là qu'il est venu, encore une fois, pour nous rejoindre. Pour nous rejoindre. En troisième lieu, il s'est séparé de sa famille, quittant la gloire de son père, comme dit le cantique, pour prendre l'apparence d'un simple serviteur. Et je le redis une troisième fois, pour nous rejoindre. Pour nous rejoindre. Alors, quel a été le fruit de ces trois ruptures? Le fruit de ces trois ruptures a été que Jésus nous a rencontrés, que Jésus nous a accordé de rentrer dans sa famille, nous a accordé de rentrer dans son royaume et nous a accordé d'hériter de sa richesse. Le dépouillement de Jésus, l'expatriation de Jésus, la rupture de Jésus avec sa famille a été pour nous le fait de retrouver une patrie céleste, pour nous le fait de rentrer dans la famille céleste, pour nous le fait de participer à l'héritage céleste. Se pourrait-il que nous aussi, lorsque nous devenons des disciples de Jésus, si nous considérons ces trois ruptures, si nous considérons l'appel de Jésus à changer nos priorités, cela aurait un impact sur qui, de l'extérieur, pourrait se retrouver à l'intérieur. Si nous gardons notre culture humaine, nos liens familiaux, notre désir de confort comme des priorités fondamentales au sein de notre vie d'Église, cela n'aura-t-il pas un impact sur l'ouverture de cette communauté à ceux du dehors ? Je ne crois pas que pour être chrétien, il faille couper tout lien avec sa famille. Je ne crois pas que pour être un chrétien, il faille toujours être un missionnaire qui quitte son pays. Je ne crois pas que pour être chrétien, il faille vivre tous au-dessous du seuil de pauvreté. Non. Mais il est bien la question de remise en place de nouvelles priorités. Que la réalité du royaume de Dieu que nous sommes appelés à annoncer de nos mots trouve une incarnation dans notre style de vie. Dans notre style de vie. Ayant dit ça, je vais vous relire le texte de Paul qui vient comme contrebalancer les propos de Jésus. Ou en tout cas, nous permettre de dire que Jésus ne demande pas d'abandonner sa famille ou de la rejeter ou de se réfléchir en opposition avec elle, fût-elle chrétienne ou non. Puisqu'alors qu'il encourage Timothée, son jeune disciple qu'il a envoyé dans l'église d'Éphèse, à organiser les choses de l'église, et quand il parle de la diaconie, du souci des pauvres, il l'encourage vraiment à prendre soin de toutes les veuves de l'église. Toutes ces vieilles mamans qui ont perdu leurs époux et dont l'église doit se sentir responsable de ne pas les laisser isolées, de veiller à ce qu'elles ne manquent de rien. Mais dans son exhortation, il rappelle « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. » En disant cela, Paul rappelle que la charge de ces veuves incombe d'abord à la famille avant l'Église. Il serait inconvenant que des membres de l'Église aient plus à charge une veuve de l'Église si ses enfants ou ses propres petits-enfants sont dans la communauté. Avec cette parole sévère, au verset 8, « Si quelqu'un n'a pas le soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Comment comprendre alors ce rééquilibrage des choses que nous sommes appelés à faire? Considérons vraiment ce qu'a traversé le Christ pour nous. Il a voulu vivre ces ruptures, cette expatriation, cette rupture avec sa famille, cette rupture avec sa culture, son confort, son royaume, pour nous l'offrir, pour nous rejoindre et vivre auprès de nous quelque chose qui va nous bouleverser et nous transformer. La meilleure illustration que j'ai trouvée pour nous, c'est le Noël du cœur. Qu'est-ce que nous vivons au Noël du cœur? Nous choisissons, nous acceptons de ne pas vivre Noël, ce Noël-là, avec notre famille, ou de n'arriver que le 25 ou le 26, en tout cas, pas le 24. Dans quel but? D'offrir à ceux du dehors une soirée de fête, une soirée gratuite, une soirée qui manifeste l'amour de Dieu. Voilà. Nous choisissons de faire passer en avant des inconnus. Nous ne savons pas qui viendra au Noël du cœur. Nous préparons un repas sans avoir le visage des gens qui vont le manger. Mais nous croyons que des gens viendront et que nous les sortirons peut-être d'une solitude, que nous leur donnerons de goûter peut-être à des mets, à un repas plus festif que ce qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir, de passer une soirée dans une ambiance de fête, de rompre avec l'isolement. Et pour cela, nous faisons passer le royaume avant notre vie de famille, avant notre confort, avant les traditions culturelles françaises. Et quel fruit en ressort-il? Pour ceux qui ont participé au Noël du cœur, vous avez lu des expressions sur les visages. Vous avez reçu des mots de reconnaissance des personnes alors que nous les raccompagnons à la sortie. Vous avez même parfois été interpellé du trouble, du trop de générosité et suspicion de « est-ce que c'est vraiment gratuit ?» ou est l'arnaque ? Ainsi, nous pourrions aussi, pour les week-ends d'église, pour les autres activités de l'église, être confrontés à ce choix de rééquilibrer dans notre vie les choses. Et n'allez pas chercher à participer à un week-end d'église dans un esprit de dévot. Bon, je me sacrifie pour le Seigneur. et d'être présent au week-end d'église en faisant la tronche, en attendant que ça se passe. Si vous décidez de consacrer ce week-end à la vie d'église, à la vie communautaire, que ce soit pour rencontrer les gens, pour faire de ceux peut-être que vous connaissez le moins dans la communauté, des gens du dedans et non plus des gens du dehors pour vous. Il ne s'agirait pas de le vivre pour nous enorgueillir, de nous sacrifier. La souffrance n'a pas de vertu. Mais que le sens que nous mettions à ces choix, à ces décisions de mettre le royaume en premier, soit motivé de la même motivation que le Seigneur lorsqu'il quitta les cieux pour venir sur la terre, lorsqu'il abandonna sa gloire pour devenir un simple bébé, lorsqu'il quitta sa famille pour venir rencontrer des illustres inconnus, pécheurs, rebelles, dans le but de faire d'eux ses sœurs et ses frères. Un jour, on vient voir Jésus et dit « Ta mère et tes frères sont là dehors, ils t'attendent !» Il était en train de prêcher à une foule. Il regarde la foule, il dit « Mais qui sont ma mère et mes frères ?» Et il regarde tous les gens qui sont autour de lui et leur dit « Voilà, ma mère et mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. » Déjà, il redéfinissait les liens qui nous unissaient. Il y a une grâce immense qui nous est faite d'être rendus participants de la famille de Dieu. Il y a une grâce immense qui nous est faite d'être promis d'hériter du monde et de la gloire de Dieu. Il y a une grâce immense qui nous est faite de devenir des citoyens du royaume à venir, alors qu'on n'en maîtrise même pas la culture, alors qu'on n'en manifeste même pas toute la justice, alors qu'on n'en manifeste même pas toute la vérité. Vous avez déjà, comme moi, votre carte d'identité des cieux. Vous avez déjà, comme moi, votre filiation avec Dieu le Père, adopté, fille et fils de Dieu. Alors que nous n'avons même pas compris tout l'honneur et toute la grande dignité de cette famille. Et vous avez reçu les promesses de régner pour toujours avec Dieu dans de nouveaux cieux et nouvelles terres. Et nous n'avons même pas idée de ce que ça peut vouloir dire que de régner pour l'éternité avec Dieu sur la terre, n'est-ce pas? Il serait triste, décevant, que ce à quoi nous avons été rendus participants, nous ayons une attitude qui écarte et qui chasse d'autres de le recevoir aussi. Une attitude élitiste, une attitude exclusiviste, une attitude hautaine, une attitude égoïste. J'en sais rien. Mais qu'au contraire, nous ayons en nous le même désir qui était en Christ, de rencontre et de partage, d'offrir, de raconter, de multiplier et d'accueillir au sein du royaume de Dieu un grand nombre de perdus, un grand nombre de ceux qui étaient à la porte, un grand nombre de ceux qui étaient dehors. Vous connaissez cette histoire que Jésus raconte? Il était en train de manger un repas avec des pharisiens. Et l'un d'eux dit, « Ah, Seigneur Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Je dis, « Oui, c'est vrai. » Il raconte, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit « Ah, excuse-moi, j'ai acheté un champ à l'instant là, je dois aller le voir. Tiens-moi pour excuser auprès de ton maître, je te prie. » Puis un autre dit « Ah, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Tiens-moi pour excuser, je te prie. » Et un autre dit « Oh, ça tombe mal, je vais me marier. Je ne peux pas participer au repas. » Le Seigneur retourna auprès de son maître, lui rapporter ces choses. Alors le maître dit à son serviteur « Va promptement sur les places, dans les rues de la ville et amène ici tous les pauvres, les estropiés, tous les aveugles, tous les boiteux. » Et le maître dit « J'ai ordonné tout ce que tu as fait, il y a encore de la place. » Alors le maître dit à son serviteur « Va alors par les chemins, le long des haies, et même contrains les gens d'entrer jusqu'à ce que la maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon repas. » Il y a dans cette parabole un message de ne pas négliger la grâce qui nous a été faite, ne pas la considérer comme un dû, comme acquise. Rester sans cesse dans l'émerveillement de ce à quoi nous avons été rendus participants d'une part. Et d'autre part, il y a dans cette parabole aussi cette farouche détermination au Père de remplir sa maison d'invités, quels qu'ils soient, des aveugles, des boiteux, des mendiants, des étrangers qui sont sur les chemins. Nous n'avons pas à faire le tri, à faire de l'Église un groupe de gens bien, mais plutôt un grand ramassis de perdus qui trouvent la lumière et qui se réjouissent de la grâce qu'ils ont reçue. Voilà. Toi, suis-moi, dit Jésus. Laisse les morts enterrer leurs morts. Considère que le Fils de l'homme n'a pas un seul endroit pour reposer sa tête. Et ne jette pas de regard en arrière alors que tu mets la main à la charrue afin de servir le royaume. Amen.